franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Tolkien et le Seigneur des Anneaux.
Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres, dans les flammes de la montagne du destin. Il a été pris par Isildur, de la main de Sauron lui-même.
Un monde, la Terre du Milieu, entraîné par l'anneau dans une histoire dangereuse, creusée d'abîmes et parcourue de chemins dont certains ne vont nulle part. Un monde païen, venu du fond des âges, mais sur lequel son auteur, le très catholique professeur Tolkien, jette un regard de chrétien. Une œuvre occidentale qui ne cherche pas de référence hors de l'Occident, rédigée pendant que l'Occident laissait monter les périls, puis se livrait à la Seconde Guerre. Le travail d'artisan d'un homme qui se souciait plus de cohérence que de tirage. De son siècle, il détestait beaucoup de choses, et d'abord les techniques nouvelles, et voici que son Seigneur des Anneaux est devenu un vaisseau amiral des industries culturelles du 21e siècle, tirant une flotte de films et de jeux vidéo, tandis que ses autres livres, qui faisaient pourtant système, s'en trouvent comme submergés. Une preuve de plus que l'anneau n'a pas fini d'exercer sa force. Notre invité Vincent Ferré, bonjour.
Bonjour.
Alors, hier, nous avions une arthurianiste. Vous êtes un médiévaliste. L'histoire, décidément, doit développer aujourd'hui de nouvelles compétences.
Tout simplement, ce terme recouvre le champ qui s'intéresse aux relations entre le Moyen-Âge et les siècles ultérieurs, en particulier pour ma part, le XXe siècle. Et je travaille à la fois sur Proust et sur Tolkien et sur d'autres écrivains dans leur rapport au Moyen-Âge.
Alors, vous allez bientôt publier aux éditions du CNRS un dictionnaire Tolkien ?
Absolument, en septembre.
C'est parce qu'il n'est pas encore paru que je risque de commettre pas mal d'imprécisions ou d'erreurs que vous me pardonnerez au milieu de cette émission. Alors, le maître de conférence à Paris 13 que vous êtes va s'incliner devant le professeur d'Oxford. Qu'était Tolkien dès l'âge de 30 ans et quelques en 1925?
Oui, donc Tolkien, qui est né en 1892 et mort il y a 40 ans à peu près, a été nommé très jeune à Oxford en 1925. Il y a fait presque toute sa carrière pendant 35 ans.
Fumant la pipe en donnant un enseignement brillant consacré essentiellement aux langues telles qu'elles étaient pratiquées en Europe au Moyen-Âge.
Au Moyen-Âge. Toutes les langues européennes, langues dans leur rapport à la littérature. Et c'était effectivement un professeur extrêmement impliqué, soucieux de ses étudiants, du système universitaire et qui travaillait avec beaucoup de générosité.
Tout à l'heure, on m'entendra parler en elfique.
Très bien.
Et vous, ce sera dans quelle langue ?
Ce que vous voudrez, peut-être la langue des Ents.
Par exemple. Alors, dans les bibliothèques qu'on compare souvent aux caves, il y a de très bonnes bouteilles. Alors celle datant du Moyen-Âge qui passionnait Tolkien, la légende de la table ronde dont on parlait hier, mais...
Absolument. En fait, c'est un Moyen-Âge européen, nordique, scandinave, et pas seulement dans son versant celtique et arthurien. Donc en fait, la grande référence pour Tolkien, c'est Beowulf. Le poème héroïque, épique, anglais, qui est vraiment fondateur pour les Anglais, comme nous, en France, peut l'être la chanson de Roland, d'une certaine manière. Et Tolkien est le premier en 1936, donc au moment où il va faire paraître Bilbo le Hobbit, ça n'est pas un hasard, et commencer à écrire Le Seigneur des Anneaux, il est le premier à présenter Beowulf, non pas comme un document historique, à partir duquel on pourrait étudier le passé, mais également comme un texte littéraire et qui mérite d'être lu comme tel.
Alors il commence à écrire ce qui va devenir Bilbo le Hobbit, que vous citez aux alentours de 1930, dit la chronique. Et ces histoires, celles-ci comme les autres, il les essaye devant ses enfants, lisant, chantant même.
Je l'ai lu à mes enfants, aux deux aînés, qui l'ont apprécié dans l'ensemble. Ils ont été très intéressés. Je pensais qu'il était approprié de les inclure dans une histoire pour enfants. Mais ils haïssaient les apartés comme « alors maintenant je vous ai assez dit que », etc. Ils détestaient tout ce qui sonnait comme si vous parliez à un public réel.
A troll sat alone on his seat of stone and munched and mumbled a bare old bone. For many a year he'd gnawed it near for me, 'twas hard to come by, some by, come by.
Tolkien soi-même, vous noterez qu'il a lâché sa pipe, et là, il est en train de mordiller et de mâchonner un vieil os nu comme un troll, un vieil os nu dont il avait commencé à marcher la viande il y a si longtemps.
This many a year has Jim been gone, and I thought he was lying in graveyard.
1937, il publie Bilbo le Hobbit, ça a pas mal de succès, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il poursuit de front une œuvre polyphonique préparant Le Seigneur des Anneaux, mais aussi beaucoup d'autres textes.
Alors j'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit à propos des enfants. C'est vrai que Tolkien, qui était père de 4 enfants, inventait des histoires pour eux. Il a inventé l'histoire de Rotherhandom pour consoler l'un de ses enfants. Et Bilbo le Hobbit est né effectivement au fil des soirs. Mais l'extrait qu'on a entendu met l'accent sur le fait que Tolkien écrivait des récits pour les enfants tout en réfléchissant au lien entre le conte et l'enfance. Et il considérait qu'il ne fallait pas parler aux enfants comme s'ils étaient des êtres, des demi-êtres, mais qu'on devait leur parler comme des personnes à part entière. Et c'est une des images les plus frappantes parmi celles qui apparaissent dans la correspondance que nous avons traduite avec Delphine Martin chez Bourgois. C'est le père affectueux, proche de ses enfants, soucieux d'eux. Pour autant, le fait d'avoir publié en 1937 un livre qui est devenu un classique de la littérature de jeunesse a brouillé l'image de Tolkien. Et là, j'en viens à votre seconde question. Depuis 20 ans, Tolkien inventait un univers, d'abord dans ce qu'on a appelé les contes perdus, qui étaient empreints de mythologie, qui étaient ancrés dans un passé bien plus ancien et qui brouillaient les repères. On n'était pas du tout dans le conte pour enfants. Et c'est cet univers-là qui va lui servir de décor, d'abord pour Bilbo le Hobbit, un peu, et surtout pour Le Seigneur des Anneaux. Mais l'image que j'emploie souvent pour parler de l'œuvre de Tolkien, c'est celle de l'iceberg. On a le Bilbo le Hobbit en 1937, Le Seigneur des Anneaux paraît en 1954, après plus de 15 ans d'écriture. Mais les milliers de pages que Tolkien a pu écrire tout au long de sa vie, qui sont vraiment à l'arrière-plan et qui nourrissent en permanence sa vie, ne vont être connues du public qu'après sa mort en 1973.
Et Christopher, celui des fils qui poursuit l'édition de l'œuvre, entend encore son père lui chanter dans une caverne des collines. Il demeurait seul et la viande était dure à trouver. C'est la suite de ce que je traduisais tout à l'heure. Il interroge et il trouve plein d'inédits qu'il collationne dès le lendemain de la parution du Seigneur des Anneaux. Est paru comme ça un ensemble qu'il faut avoir en mémoire et dont le titre est...
Alors, en fait, Christopher Tolkien, voilà, l'un des fils de J.R.R. Tolkien, publie en 1977 en anglais un volume qui s'appelle Le Silmarillion et qui est une sorte de montage de nombreux textes écrits par son père au cours de pratiquement 60 années de sa vie. Et du jour au lendemain, les lecteurs du Seigneur des Anneaux, de Bilbo le Hobbit, ont accès à ce passé de l'univers qui leur était jusqu'à présent simplement connu par des aperçus. Et ça a été absolument décisif. Mais juste après avoir publié Le Silmarillion, Christopher Tolkien édite également La Correspondance de Tolkien, qui éclaire complètement l'œuvre de manière absolument magistrale. Puis, au cours des années 80 et 90, c'est très frappant, une série de 12 volumes qu'on appelle L'Histoire de la Terre du Milieu, et dans lequel... volumes dans lesquels on a accès aux milliers de pages dont je parlais tout à l'heure, des poèmes, des textes en prose, des remarques linguistiques, une sorte de dictionnaire elfique, entre guillemets.
Tout ça se situant dans un temps qui n'appartient qu'à lui, avec des âges qu'il a définis, comme on définissait les âges au Moyen-Âge, et dans la terre du milieu qu'il a imaginée et qui est so british.
Il y eut jadis un jour où j'eus l'idée de construire un corps de légende plus ou moins étroitement relié, allant des vastes cosmologies jusqu'aux contes de fées romantiques. Les plus larges basées sur les plus proches de la Terre, les plus étroites tirant quelques splendeurs des grandes toiles de fond, et que je pourrais dédier simplement à l'Angleterre, mon pays. Cela devait pouvoir posséder le ton et la qualité que je voulais, une sorte de fraîcheur et de clarté, respirer notre air, cette insaisissable et pure beauté que certains nomment celte. Quelque chose de haut, sans plus rien de grossier, qui convienne à ma terre adulte et longtemps baignée de poésie.
C'est un monde à part. Comme l'Angleterre, c'est un monde assez puissant pour concurrencer le nôtre, mais il est dans une autre histoire.
La citation qu'on vient d'entendre est une description a posteriori par Tolkien d'un projet qui a pu être le sien à un moment donné de sa jeunesse. Mais il en parle avec une certaine distance, et c'est l'objet d'un débat dans les études consacrées à son œuvre. À la fois, Tolkien a été très universel dans sa démarche et en même temps, il a souhaité ancrer cet imaginaire dans un lieu qu'il aimait, en l'occurrence l'Angleterre, puisqu'il est anglais. Et dans son esprit, le lien entre la langue, les langues, l'anglais et aussi les langues inventées, la géographie, le temps sont des choses absolument liées. Donc, il y a des traits anglais dans Le Seigneur des Anneaux qui sont parfois amusants, hein, chez les Hobbits, par exemple. Et en même temps, il y a une volonté de dépasser cela pour aller vers quelque chose de plus universel.
Les Hobbits, alors, le principal des Hobbits, du moins au début, c'est Bilbo qui va parcourir une terre dont l'histoire est commandée par le sort incertain qui sera celui de l'anneau.
L'histoire devint une légende. La légende devint un mythe. Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau. Mais il se passa une chose à laquelle l'anneau ne s'attendait pas. Il fut ramassé par la créature la plus improbable qui soit.
Qu'est-ce que ceci ?
Un hobbit. Bilbon Sacquet, de la Comté.
Un anneau ?
En effet, l'heure approche où les hobbits détermineront le destin de tous.
C'est que l'anneau, expliqué à ceux qui n'ont encore Tolkien, entraîne vers la tentation. Sauron et ses alliés veulent le récupérer. Il mine de toute façon qui le possède du dedans.
L'anneau est la grande invention de Tolkien lorsqu'il se demande quelle suite inventer à Bilbo le Hobbit. C'est une question de son éditeur, vu le succès de Bilbo le Hobbit. Et Bilbo avait ramassé par hasard un anneau dans son premier récit qui permet de devenir invisible. Et Tolkien a le sentiment que cet anneau, qui est un élément qui vient du Moyen-Âge, par exemple, peut lui permettre de donner une autre dimension et d'aller vers un récit plus adulte que ne l'était Bilbo le Hobbit, qui ne le satisfaisait pas complètement. Et effectivement, l'anneau, dans Le Seigneur des Anneaux, est l'image du pouvoir absolu qui corrompt absolument tous ceux qui l'approchent, qui le détiennent, qui le désirent. Anneau qui transforme Gollum, qui était une sorte de hobbit par le passé, en une créature monstrueuse. Et là aussi, c'est très symbolique de la transformation possible quand on s'approche trop près du pouvoir. Sauron, qui chez Tolkien n'est pas le mal absolu, il n'y a pas de mal absolu chez Tolkien, est un être pour qui la fin justifie les moyens et qui veut absolument retrouver l'anneau parce que c'est une arme de puissance, une arme de guerre.
Pour se défendre de Sauron et de ses méchants cavaliers, enfin, il n'y a pas de méchants totalement méchants qui sont ses alliés, les hobbits, l'anneau étant passé de Bilbo à un autre hobbit, Frodon, vont créer une sorte de fédération. Alors on va entendre, on est toujours dans le film de Peter Jackson qui date d'il y a une dizaine d'années et qui se présentait comme une trilogie, on va entendre comment la cacophonie des alliés autour de Frodon et des premiers hobbits va peu à peu se taire. Et va naître la communauté de l'anneau.
Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire.
Je vais porter l'anneau en Mordor.
Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sacquet, aussi longtemps que vous aurez le porté.
Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai.
Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous.
Qu'il en soit ainsi. Vous formerez la communauté de l'anneau.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Où est-ce qu'on va ?
Aujourd'hui, on va vers Le Seigneur des Anneaux de Tolkien en compagnie de Vincent Ferré, qui n'a pas encore publié à CNRS Éditions son dictionnaire Tolkien. Alors, il faut que nous fassions le point, là, avant de savoir où on va, Vincent Ferré. Qui y a-t-il dans cette communauté de l'anneau ? On a entendu le magicien Gandalf, que vous citiez. On a entendu Aragorn, mais n'est-ce pas un homme ? On a entendu un nain qui promettait le secours de sa hache. Et puis, il y a les hobbits. Mmh. Alors, d'ailleurs, ça se présente comment, un hobbit ?
Tous les personnages que vous avez évoqués sont en fait, dans l'esprit de Tolkien, des représentations de ce qu'est l'homme, de l'homme sous tous ses aspects. Donc, les elfes, par exemple, représentent le côté artiste de l'homme. Les hobbits sont à la fois les personnages les plus terre-à-terre, enracinés, et c'est très valorisé chez Tolkien, et en même temps des personnages qui peuvent faire preuve d'un esprit de clocher dont il se moque dans ses textes. Et la taille, visiblement, des hobbits, qui mesure un mètre à peu près de haut, ne les apparente pas à des lutins, mais est un symbole de leur limite, et ça va en faire évidemment des héros très intéressants. Le passage qu'on vient d'entendre, derrière la, malgré la musique un petit peu trop lourde de Howard Shore, ce qu'on vient d'entendre montre l'alliance nécessaire entre toutes les composantes de l'homme, entre toutes ses facettes, pour parvenir à accomplir une mission qui se dessine progressivement.
Je vous entends critiquer la musique du film. On ne va pas épiloguer sur celui-ci. On attend d'ailleurs, en décembre 2012, la première partie de Bilbo de Le Hobbit, que Peter Jackson, exploitant le filon, va nous donner. Mais vous négligez un fait, c'est que c'est très difficile de faire un film avec des personnages dont les tailles sont si différentes. Les hobbits mesurent 1 mètre et les hommes.
Et les hommes ont une taille proche de la nôtre, mais il y a des êtres beaucoup plus grands comme les Ents, par exemple.
Non, vous voyez les difficultés, mais il n'y a pas que des différences de taille entre ces personnages qui appartiennent, comment va-t-on dire ?
Au peuple libre.
Dans Wikipédia, on dit à des cultures différentes. Mais sur Wikipédia, on est très politiquement correct. Mais on pourrait dire des races.
Non, certainement pas des races.
Qu'est-ce qu'il écrit, Tolkien ?
Il écrit des peuples. Il écrit des peuples le plus souvent, des lignées. Lorsque le terme race apparaît, il est plutôt dans sa connotation anglaise qui n'est pas, dans les années 20, quand écrit Tolkien, la même que la nôtre maintenant. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Il n'y a aucune supériorité. Il y a une sorte d'égalité et de diversité. Et le texte de Tolkien montre bien que seule l'alliance permet d'arriver au bout et que dès qu'on joue la division, on va à l'échec. Donc ça, c'est un point à souligner. Qu'après, Peter Jackson ait décidé de mettre des cheveux blonds aux elfes, ça le regarde. Dans le texte de Tolkien, il n'en va pas de même.
Ah,
et l'insistance est mise dans le texte de Tolkien sur le fait que ce sont les personnages les plus fluels et moins héroïques, correspondant le moins aux clichés qu'on peut avoir d'une certaine forme de littérature, de l'imaginaire, qui vont être les véritables héros. Donc ça, j'insiste sur ce point.
J'ai bien noté. Alors, j'ai compris que les elfes n'étaient pas blonds, mais vous nous avez dit que les elfes étaient le versant le plus esthétique, le plus artistique de la communauté de l'anneau. Alors, depuis longtemps, était promis aux auditeurs une chanson en elfique. J'avais indiqué que j'étais capable de le parler. Enfin, avec le secours d'une traduction, vous allez entendre tomber les feuilles dans le vent.
Alors Frodon décida de continuer sa quête. Et voici le texte qu'il chanta en langage elfique.
Ei loriei lantar lasi surinen Ini on timi vera maraldarum.
Notre réalisateur Jacques Sigal, prétendant que c'est proche du breton, respire. C'est vrai que le terme existe en elfique. Le doux hydromel, dans les hautes salles, les coupes passent, les convives boivent de rapides gorgées, comme l'or tombent les feuilles dans le vent. Mais qui donc, à présent, demande Jacques Sigal, demande l'elfique, remplira pour moi la coupe ? Nous sommes débrouillés comme nous avons pu, mais vous nous avez promis aussi, vous, de parler ou de chanter dans une autre langue.
Alors, ce que j'ai envie de dire d'abord, pour faire durer un petit peu le suspense, c'est qu'on a à la fois entendu le côté esthétique des langues inventées par Tolkien, le vrai plaisir qu'il avait à inventer des langues. Dans une de ses lettres, il explique que les langues les sont le touche, comme d'autres les couleurs ou la musique. Et il a passé beaucoup de temps à inventer des langues sur le plan esthétique, en essayant d'associer une langue à chaque peuple. Là, on a entendu l'elfique. L'extrait que j'ai apporté est le moment où l'un des Ents désigne une colline. Les Ents, les hommes-arbres, sont des êtres très lents, qui prennent le temps et qui emploient beaucoup de termes pour dire le mot colline. Et on entend par exemple « Ah là 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 là, rumba, kamanda, lind, orburume ». Ce sont des sonorités un petit peu différentes, mais qui, dans l'esprit de Tolkien, servent à caractériser les personnages et les peuples. Ce qu'il faut dire absolument, c'est qu'il a inventé des histoires pour donner un cadre aux langues qu'il inventait. Il a inventé à peu près une douzaine de langues, dont deux principales, deux langues elfiques, avec un lexique, avec une grammaire. Et récemment, aux éditions Bourgois, ont été rééditées séparément ce qu'on appelle les étymologies, un petit livre qui contient des racines, des noms propres, et qui montre l'évolution des langues. Chez Tolkien, les langues, la géographie et l'histoire, le temps, sont absolument liées. Et il a inventé ces langues à divers stades de leur évolution.
D'ailleurs, sur le net, on trouve des inscriptions possibles, oui, à des stages delphiques, ou bien on peut parler comme les Ents, les hommes-arbres, qui, en dépit de leur langueur, de leur lenteur, pardon, vont se retrouver pris dans les batailles. On ne va pas raconter le détail des batailles qui commencent. Simplement, la guerre, telle qu'elle est représentée chez Tolkien, elle est inspirée par son expérience des temps mauvais, des prémices de la Deuxième Guerre mondiale, par ce qu'il entend au moment où il écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même avant, par son expérience de vétéran de la Grande Guerre.
Alors, il faut toujours évidemment être prudent quand on éclaire une œuvre par la biographie. En tout cas, il est indiscutable que Tolkien, lorsqu'il a été officier dans les transmissions en 1916, et qu'il a participé à la bataille de la Somme, et qu'il a vu tous ses amis mourir, ça a été vraiment un carnage. En Angleterre, on en... Voilà, qui a marqué encore des générations actuelles. Tolkien a été très éprouvé par cette expérience, et c'est parce qu'il attrape la fièvre des tranchées, qu'il est alité, qu'il commence à écrire le livre des contes perdus. Et cette expérience l'a marqué de manière définitive, de même que l'expérience du deuil. Très tôt, il a perdu son père, il a perdu sa mère, donc la mort est très présente chez lui. Ça, il faut quand même le dire, même si on est prudent. Et il écrit Le Seigneur des Anneaux à partir de 1937-1938, au moment effectivement de la montée du péril.
Mais sur une radio voisine, oui, enfin assez marquée politiquement, Radio Courtoisie, on expliquait récemment qu'il avait été aussi inspiré par des personnages de la guerre d'Espagne.
Non.
Qui était bien sûr du côté franquiste.
Je ne sais pas qui a pu dire ça, mais l'inspiration de Tolkien historique n'est pas directe. L'expérience de la Seconde Guerre mondiale, il l'a fait parce que ses fils sont touchés de près. Christopher Tolkien, dont on parlait tout à l'heure, s'entraîne comme pilote dans la Royal Air Force. Michael participe également. Et c'est plus une atmosphère qui domine. Quand vous parlez là du franquisme, je pense au fait que Tolkien a par exemple écrit un texte qui a été édité très récemment par Christopher Tolkien et qui s'appelle « La légende de Sigurd et Gudrun » et qui est un ensemble de deux poèmes et de textes de conférences que Tolkien a écrit dans les années 20-30 en réponse d'une certaine manière aux récupérations par les extrêmes d'un héritage nordique. Et sa visée politique, alors c'est un peu paradoxal parce qu'il l'a écrit pour lui sans le publier, mais le message est extrêmement clair. Ne pas laisser le nazisme en particulier confisquer un héritage européen qui ne doit pas disparaître en raison de réutilisations politiques qui travestissent complètement cet héritage.
Juste pour entendre le style de Tolkien quand il décrit un combat d'importance, nous sommes ici dans des mines d'or, les mines de la Moria, Frodon, ses amis, dont Boromir, se sont portés vers ce site qui autrefois leur était favorable, mais maintenant tout est dévasté. Voici non seulement la langue inimitable de Tolkien, mais la voix non moins inimitable de Jean Topard.
Des pas lourds se firent entendre dans le couloir. Boromir, se jetant contre la porte, l'assujettit d'un coup d'épaule, puis il la cala au moyen de lames d'épée brisées et d'éclats de bois. Un coup sur la porte la fit trembler. Elle commença de s'ouvrir lentement, en grinçant, repoussant les cales. Un bras et une épaule énormes, recouverts d'une peau sombre d'écailles verdâtres, passèrent par l'ouverture grandissante. Puis un grand pied, plat et sans doigts, se glissa en dessous. Boromir s'élança en avant et s'attaqua de toute sa force au bras. Mais son épée résonna, dévia et tomba de sa main ébranlée. La lame était ébréchée. Frodon se sentit le cœur enflammé d'un bouillant courroux et bondissant aux côtés de Boromir, il se baissa et il porta au hideux pied un furieux coup de dard. Un hurlement s'éleva et le pied se retira brusquement, arrachant presque dard du bras de Frodon. Des gouttes noires coulèrent de la lame et fumèrent sur le sol.
Alors, au fait que le pied est hideux, on reconnaît l'orque, une sorte d'elfe inversé qui représente le mal. Alors, est-ce que c'est un chrétien, Tolkien, avec le bien et le mal qui sont dans l'ambivalence, chacun trouvant le mal en lui, ou est-ce que c'est un manichéen? avec le bien et le mal radicalement opposés.
Alors, ce que j'ai entendu aussi, c'est le fait qu'un personnage humble, Frodo, se dépasse lui-même pour accomplir un acte héroïque dans l'une des scènes d'action du Seigneur des Anneaux. Elles ne sont pas si nombreuses, en fait. Le bien et le mal sont des points de repère importants, et ça n'est pas forcément chrétien. Vous avez fait une émission mardi sur le Mahabharata, et on a vu un petit peu comment les personnages étaient nuancés, complexes. Oui, c'était mardi. Et en fait, c'est le cas également. Les personnages chez Tolkien se répartissent sur toute l'échelle, et ils ont à un moment donné à choisir suivant leur conscience. Et il y a une association chez Tolkien entre déterminisme, destin et libre arbitre qui est très réussi. C'est un des aspects les plus réussis du texte de ce point de vue. Les personnages ont le choix, peuvent commettre des erreurs, se repentir et se racheter également. Donc si vous voulez, il y a une perspective chrétienne, mais elle est moins marquée dans Le Seigneur des Anneaux qu'elle ne l'est dans Le Silmarillion, par exemple.
Puisque vous voulez parler du Mahabharata, je vous dirais que dans le Mahabharata, citant Catherine Clément, notre invitée, il y a plus de sperme que de sang. Mais alors, dans Le Seigneur des Anneaux, je ne sais ce qu'il en est dans le Silmarillion, il y a peu de femmes qui jouent un rôle important. Il faut les compter sur les doigts des deux mains, parmi elles, la reine de la Lorienne.
Dans les ténèbres grandissantes, la volonté de l'anneau se renforce. Dorénavant, il s'emploie à retrouver le chemin de la main des hommes. Homme si aisément séduit par son pouvoir. Aujourd'hui, il est tout prêt, si prêt d'atteindre son but. Car Sauron dominera toute vie sur cette terre, même si cela conduit à la fin du monde. Le temps des elfes est révolu. Devons-nous abandonner la terre du milieu à son destin? Laisserons-nous ces peuples se défendre seuls?
Un frisson d'érotisme a passé, très rare, dans Le Seigneur des Anneaux. J'allais dire, c'est peut-être une épopée chrétienne, mais c'est le christianisme sans l'amour. En tout cas, c'est un livre sans femme.
Alors, bon, là, je sais que vous le faites exprès pour me faire réagir, mais bon, l'amour est omniprésent, l'amour fraternel, déjà, c'est très frappant, et les femmes jouent un rôle
l'amour
important.
L'amour fraternel.
Oui, entre hommes, dans l'épreuve. Mais là, on suit des codes médiévaux, qui sont les codes arthuriens, d'une certaine manière, qui ont été évoqués hier. Les femmes sont essentielles, on vient d'entendre Galadriel. Les couples sont très importants dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est pour les femmes que chacun des personnages, chevaleresques ou non, agissent et accomplissent ses actions, accomplissent ses aventures. Et j'ai envie de dire que le personnage Tolkien le plus important, c'est une femme, c'est Luthienne, qu'on retrouve dans plusieurs textes et donc dans le Silmarillion, et qui est une sorte d'Orphée inversé et qui, par la puissance de son chant, va être l'héroïne d'une aventure. Elle va aller sauver l'homme qu'elle aime. Et c'est certainement le personnage le plus marquant de tout l'ensemble des textes de Tolkien. Donc, les femmes sont discrètes, mais on est dans un registre qu'on connaît, d'inspiration médiévale.
Vous provoquez, mais enfin, vos propos sont paradoxaux. Il est vrai que votre personnage aussi est paradoxal, Vincent Ferré. Vous défendez l'œuvre de Tolkien en France, conseillée pour les éditions Christian Bourgois, alors que Tolkien n'aimait ni la France, ni la langue française, ni la cuisine française.
Vous savez, Tolkien était quelqu'un qui était plein de malice, et dans sa correspondance ou dans ses lettres, ses réponses aux journalistes, il a pu se construire un personnage. Ça me semble assez anecdotique, le rapport à la cuisine française. Tolkien est un personnage de nuance, c'est vrai, qui s'amuse à multiplier les discours suivant ses interlocuteurs avec beaucoup de générosité, donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, je crois. C'est un personnage complexe et attachant.
Alors, vous avez parlé des éditions auxquelles vous présidez. Vous n'avez pas voulu parler plus longuement du film de Peter Jackson. C'est quand même devenu un personnage Tolkien, et chacun de ses héros, une des figures de proue des jeux vidéo, des jeux de rôle, du monde des industries culturelles.
Tout à fait. Tolkien a été repris vraiment par tous les types d'art, et on parlait tout à l'heure de politique. Il a été repris de l'extrême gauche à l'extrême droite suivant certains pays, les pays. Mais son œuvre est très féconde pour les illustrations, pour les films. Star Wars, un doigt à Tolkien, pour la musique, pour la littérature, que serait Harry Potter sans Tolkien, très lointainement. Les jeux vidéo, vous l'avez dit également. C'est une œuvre très plastique, et vu son immensité, chacun peut retenir ce qu'il veut de cette œuvre, du moment qu'il l'a fait vivre, il a le droit.
Je vais vous provoquer une dernière fois. D'aucuns disent que si les jeux vidéo ont tant de succès, c'est une illustration de la crise de la virilité actuelle. Les hommes sont derrière leur console, entre eux.
Je ne suis pas assez qualifié pour répondre à ça, mais la question de la vérité chez Tolkien est retravaillée de manière, je crois, assez pertinente. Mais je pense que vous allez lire Le Seigneur des Anneaux dès la fin de l'émission.
Tout à fait. Et je lis pour conclure cette belle phrase qui semble tirée de votre site pour Tolkien.fr. Elle nous a été envoyée par un auditeur ou une auditrice, peut-être, il y a un instant. Tout ce que nous avons à décider, il est bientôt 14h, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Eh bien, lire ou relire Le Seigneur des Anneaux, c'est entendu. Jacques Sigal a écouté la leçon, Gilles Gaillard, Yann Bouillot. L'émission a été préparée avec brio par Laetitia Legrand en compagnie de Frédéric Martin. Il est 14h, voilà, c'est sûr. Vous écoutez France Inter.